Merci, ce sera la fin de cette conférence. On va passer au deuxième temps fort de la matinée, qui est la table ronde, intitulée « Politique, enjeux et dispositifs de la recommandation musicale institutionnelle à l'heure des algorithmes et des réseaux sociaux ». Donc effectivement, on redescend un petit peu sur Terre, c'est peut-être pas la bonne expression, mais en tout cas, on se recentre d'un point de vue bibliothéconomique, en espérant qu'on ait dans nos bibliothèques un peu moins de moutons à cinq pattes, avec, autour de cette table ronde, Juliette Abric, responsable adjointe du département musique, bibliothèque municipale de Lyon, Vincent Castaignet, cofondateur et directeur général du site Discovery, Sofiane Fallen, journaliste, cofondateur de Les Jours, auteur de Boulevard du Stream, du MP3 à 10h, La Musique Libérée, David Ménessier, conseiller pour la collection Pop Rock Electro, chef de projet Beat, Bang and Belgium Underground pour le Point Culture de la Fédération Belgique-Wallonie, Wallonie-Bruxelles, pardon. Et Damien Poncet, donc chargé de médiation et action culturelle à la médiathèque musicale de Paris, sous le haut patronage de Arsène Hoth, responsable à la médiathèque André Malraux à Strasbourg et ancien président de la CIM. Je vous laisse vous installer. Et je laisse la parole à Arsène dès que vous êtes prêt.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux d'être modérateur de cette table ronde. Alors ça permet déjà d'avoir en fait une représentation générationnelle différente. Donc moi c'est plutôt les années 50, enfin, né dans les années 60, mais donc je représente cette génération des plus de 50 ans. Alors pourquoi je dis ça? Parce que justement la médiation, la recommandation, années 60-70, c'était un contexte dans lequel finalement on se reniflait avec des outils tout à fait différents. C'est-à-dire que ça pouvait aller de l'identité qu'on pouvait se construire autour d'un jukebox dans le bistrot du village, de la ville que l'on fréquentait. Et donc c'était les premières playlists finalement auxquelles on avait accès. Donc une proposition qui était une proposition culturelle mais aussi identitaire. Donc ça crée du rassemblement, ça fidélise des générations, un public. Et puis les autres formes, alors on les retrouve toujours, hein, elles ont été signalées, la radio, la télé bien sûr déjà à l'époque, les concerts aussi, mais finalement c'était souvent au travers de soirées aussi, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on devenait amis souvent, c'est qu'on allait renifler la collection de disques, de livres de la personne chez qui on finissait sa soirée, on se disait tiens il écoute. Alors dans les années 70 ça pouvait être, c'était plutôt le rock progressif peut-être, King Crimson, ou ça pouvait être Frank Zappa, ça pouvait être Yes, des propositions de ce type, Neil Young ou Neil Young. À côté de ça on pouvait trouver pourquoi pas des disques de jazz, de la chanson française, de la musique classique aussi, hein, de contemporaine. Je sais qu'une des acquisitions qui était arrivée un peu par un hasard de pochette, d'attrait de pochette, c'était un disque d'Edgar Varèse. Donc, tout à fait, voilà, c'est une manière très, très intéressante de former mon oreille à l'époque. Alors, aujourd'hui, on se voit autour d'une journée d'études intitulée « Recommandations et médiation musicale à l'heure numérique ». Quel rôle pour les bibliothèques ? Je vois dans cette interrogation, on va dire, une forme d'optimisme, parce que du coup, on est persuadé que nous avons un rôle à jouer, en tout cas, au sein de cette journée. Et je crois que, justement, les différentes époques de notre métier, c'est-à-dire que lorsqu'on considère un peu ces évolutions, on va dire, des années 60 aux années 2010, c'est que c'est un métier qui s'est quand même adapté à ces différents contextes. C'est-à-dire que toute la phase d'émergence des bibliothèques musicales des années 60, 70, 80, 90, la phase aussi de questionnement, alors dès le début des années 2000, notamment je pense grâce à la CIM, je me souviens vraiment de ces journées rencontres professionnelles où on s'interrogeait très fortement il y a presque une vingtaine d'années maintenant sur ces sujets, donc sur la question à l'époque du blues des bibliothécaires musicaux, sur la question du bibliothécaire musical d'ailleurs, parce que ça aussi c'est une évolution, c'est-à-dire que le choix des mots, on a aussi fait ce glissement du terme de discothécaire au terme de bibliothécaire musical, défendu très, très fortement par Michel Sineux, donc à la médiathèque musicale de Paris. et à travers les publications aussi, donc professionnelles. Et aujourd'hui, il y a un nouveau glissement qui se fait très fortement et que l'on entend, donc il y a aussi celui de le terme de médiateur numérique, donc on aura un exemple autour de la table ronde, médiateur musical tout court aussi peut-être, donc en termes de nouvelle identité qui est revendiquée dans notre métier. Alors, je ne vais pas trop m'attarder puisque les invités ont été présentés à deux reprises déjà. Je vais juste vous expliquer un peu le format de la table ronde, donc on a choisi ensemble. On laisse à chaque intervenant à peu près 5 minutes de temps de présentation de son sujet, de sa thématique, ou en tout cas de ce qu'il souhaite présenter ce matin auprès de vous. Et puis, on souhaiterait réserver l'essentiel du temps après à des questions que vous pouvez nous poser. Donc on vous interpellera dès qu'on aura fait le tour de la table ronde. Et des questions que, finalement, les différents intervenants autour de la table pourront poser, peut-être, s'ils ne sont pas de la sphère du monde des bibliothèques, pourront nous poser en termes d'interrogations à partager. Il y en a déjà eu lors de la conférence ce matin. Je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, c'est vrai que les personnes continuent à venir à des journées d'études, non pas toujours avec des solutions et des réponses, mais avec un partage de questions, mais ce partage de questions, c'est aussi ce qui nous porte et qui continue en fait à faire évoluer et qui transforme notre métier. Donc je pense que c'est peut-être ça un des éléments essentiels aujourd'hui qu'il faut essayer de retirer. C'est, si on ne part pas avec des réponses, on partira au moins avec des questions qui vont nous porter plus loin. Voilà, alors je vous propose, alors j'ai aussi été averti sur une nécessité de tenir notre temps, surtout qu'il y a une pause déjeuner aussi à gérer dans la journée. Je voudrais une dernière précision, c'est-à-dire que les intervenants sont aussi disponibles pour des échanges au-delà de la table ronde. Alors ça peut se faire peut-être à un moment de la pause déjeuner, mais surtout cet après-midi, vous aurez peut-être l'occasion aussi de poser des questions de manière directe. Donc ils seront présents et vous pourrez les solliciter. Donc ça permet aussi de poursuivre les enjeux, parfois sous un format qui peut être plus léger, plus souple aussi que peut-être une intervention publique en assemblée. Alors je vais donner la parole en tout premier lieu donc à Juliette Abric, qui est donc responsable adjointe au sein du département musique donc de la bibliothèque municipale de Lyon, et donc elle nous présentera alors les projets de médiation numérique qui sont développés au sein de ce réseau, et en mettant l'accent sur un projet particulier qui fait la force aussi actuellement des actions de Juliette et de son équipe.
Bonjour, donc, je suis Juliette Abric, je suis responsable adjointe du département musique à la bibliothèque municipale de Lyon. Donc, déjà pour recontextualiser un peu, donc, il y a 16 bibliothèques à Lyon et le département musique se situe dans la bibliothèque centrale à La Part-Dieu. Et donc, je travaille dans une équipe où on est un peu plus de 8 équivalents temps plein donc en musique. Donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on est tous confrontés aux mêmes problématiques, donc la baisse des prêts de CD notamment. Et là, moi, ce que j'ai voulu vous montrer donc, dans les quelques slides qu'on va voir ensemble, c'est les réactions ou les pistes qu'on est en train de creuser en fait, à la Bibliothèque municipale de Lyon donc pour répondre à ces problématiques, notamment grâce à la recommandation. Donc tout d'abord, un travail au cœur des collections. Alors là, je les ai appelés les incontournables, parce qu'il me semble que c'est des formes de recommandations qu'on partage tous, qui sont nécessaires et qui ont un impact fort auprès des usagers. Donc ça va aller de la diffusion sonore qu'on fait dans la salle musique, aux étiquettes coup de cœur sur les CD, étiquettes qui ne sont pas anodines. Donc j'ai fait quelques stats en amont de cette table ronde, et les documents qui sont équipés de ces étiquettes-là sortent autant que les grosses sorties, même si c'est des artistes confidentiels. Donc il y a vraiment un impact direct de ces formes de recommandations. Ensuite, j'ai voulu en fait faire un focus sur trois formes de recommandations qui sont propres à la BML, à la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc le crate digging, le fonds patrimonial Mémoire des musiques lyonnaises et le projet Placed. Alors le projet Placed, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet un peu particulier, parce que c'est un projet de recherche qui est financé par l'Union européenne. Et en fait, c'est un projet qui est mené dans 3 pays, donc en Suède, au Danemark et en France. Donc dans chaque pays, il y a une équipe qui est constituée de chercheurs en informatique et en sociologie et d'équipes de bibliothécaires. Donc en France, c'est l'équipe de la Bibliothèque municipale de Lyon qui est mobilisée. Donc ce travail-là, en fait, donc on travaille avec des chercheurs qui travaillent sur l'interaction homme-machine. Et l'idée, en fait, donc nous avons 2 objectifs. Un premier objectif qui s'appelle Explore. Donc là, on va être plus sur de la recommandation autour d'un événement culturel, parce que l'idée, c'est vraiment de réintégrer tout ce qui est événementiel, action culturelle, au cœur des collections, et d'agréger autour de ces événements culturels des contenus documentaires ou éditorialisés, par exemple, qui sont déjà existants. Donc là, c'est vraiment une forme de recommandation qui se passe directement dans les collections, et l'idée de rematérialiser, juste avant on parlait de tout ce qui était numérique, mais rematérialiser des contenus qu'on a produits, par exemple sur le webzine ou dans notre bibliothèque numérique, au cœur des collections. Donc actuellement, ce prototype en fait est sous forme de tablette. On le présentera cet après-midi sur le stand qu'on aura à la bibliothèque, donc vous pourrez voir et manipuler un petit peu cet outil-là. Donc le deuxième volet de ce projet de recherche s'appelle Participate, et là on est plus sur la recommandation par le public. Donc c'est vraiment faire participer le public des événements culturels à ces événements-là, donc encore une fois par un prototype, où les personnes peuvent ajouter des photos, des liens vers des documents qui leur semblent intéressants en lien avec l'événement culturel. Donc d'autres formes de recommandations, alors là c'est plus sur les fonds patrimoniaux. Donc c'est par exemple le crate digging, donc c'est quelque chose qu'on fait une fois par mois en partenariat avec Radio Nova, où on invite en fait un artiste à venir fouiller dans nos collections patrimoniales, donc de 100 000 vinyles. Donc il y a une interview qui est faite à cette occasion, et l'artiste fait une playlist, la fameuse playlist, qui sera diffusée ensuite sur le site. Donc là, ce qui me semble intéressant, c'est que c'est une forme de recommandation, mais par un tiers, donc un peu une sorte de curateur qui va recommander un ensemble de titres sur Radio Nova. Tout à l'heure, on parlait de la place des collections dans la recommandation, et pour moi, donc on a constitué un fonds qui s'appelle Mémoire des musiques lyonnaises en 2009, et pour moi, cette constitution de fonds est en soi une forme de recommandation, puisqu'on a un axe très fort autour de la scène locale. Donc, c'est-à-dire que ce fonds, ça fonctionne un peu comme un dépôt légal. Donc on recense, on inventorie, on numérise tout ce qui est produit par des artistes ou des labels lyonnais. Donc actuellement, il y a 8000 références qui ont été inventoriées. Et depuis le mois de mai, on les met en ligne sur une bibliothèque numérique, donc sur Numelio, qui est la bibliothèque patrimoniale de la Bibliothèque municipale de Lyon. Et donc nous avons actuellement 1700 références qui sont versées dans cette bibliothèque numérique. Donc en ligne, nous avons aussi des formes de recommandations incontournables. Donc ça, c'est tout ce qui est articles, critiques, coups de cœur sur les nouveautés notamment. On a aussi un Facebook qui est dédié à la scène locale, donc notre axe fort documentaire au département musique. Et puis comme formes qui sont propres à notre département, donc on a développé un explorateur musical. Donc, qui fonctionne en fait sur une recommandation thématique. Donc, c'est un algorithme basé sur la PCDM, donc sur l'indexation, qui permet de traduire en langage naturel en fait la classification des documents. Donc l'utilisateur peut un peu découvrir, donc s'il aime le rock, il va pouvoir découvrir d'autres choses, d'autres documents. Il y a des playlists qui sont mises en ligne et aussi des descriptifs de chaque genre et sous-genre musical. C'est quelque chose qu'on utilise aussi en service public pour renseigner les usagers quand ils ont des demandes assez larges. Donc quand ils nous disent, voilà, j'aime bien l'électro, j'aime bien tel sous-genre, qu'est-ce que vous me conseillez ? Et donc la dernière forme propre à la Bibliothèque municipale de Lyon, c'est donc cette bibliothèque numérique donc, qui a été mise en ligne au mois de mai. et dans laquelle, donc en termes de recommandations, en fait, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est d'éditorialiser le contenu. Donc actuellement, il y a donc des albums en ligne, des numérisations des pochettes de CD, et il y a des fiches artistes, des fiches labels, qu'on souhaiterait faire alimenter par les artistes et labels eux-mêmes, donc les mettre en avant de cette façon-là. Et on souhaite aussi donc créer un explorateur musical dans cette bibliothèque numérique, en faisant participer cette fois-ci le public à l'indexation. Donc voilà un peu les différentes formes de recommandations que nous avons à la Bibliothèque municipale de Lyon. Donc avec plusieurs objectifs, alors déjà s'adresser à notre communauté d'usagers habituels, que ce soit des inscrits, des non-inscrits, des séjourneurs. Donc là c'est plutôt avec les collections qui sont présentes dans la bibliothèque, mais ça peut être aussi avec les différentes actions que nous faisons autour du fonds local. Donc on a par exemple des showcases mensuels d'artistes locaux qui vont permettre de rassembler à la fois des personnes qui fréquentent le département musique, mais des usagers de la bibliothèque qui n'utiliseraient pas ces collections. On s'adresse aussi donc à une communauté d'intérêt pour la musique. Donc là, je pense plutôt au webzine L'Influx, donc où on rédige ces articles sur la musique, où là, on va dépasser juste les usagers de la bibliothèque physique, de la bibliothèque municipale de Lyon, et s'adresser à toute personne intéressée par la musique. Et la dernière catégorie de personnes qu'on touche avec ces différentes formes de recommandations, c'est toutes les personnes qui ont un intérêt pour tout ce qui est local et musique locale. Donc là, c'est via justement cet axe fort sur la scène locale. Par exemple, là, on a fait une exposition Lyon Capitale du Rock, où on a impliqué le public dès la construction de l'exposition, puisqu'on a demandé aux gens en fait de nous prêter des documents, de livrer leurs témoignages en fait sur cette époque sur laquelle on travaillait. Et ça permet en fait d'ouvrir un peu notre action à des personnes qui ne sont pas forcément fréquentantes de la Bibliothèque municipale de Lyon, et vraiment d'être impliquées dans nos projets. Donc toutes ces actions, en fait, elles nous permettent d'être vraiment identifiés comme un acteur du réseau musical lyonnais, pas juste comme une bibliothèque municipale, mais vraiment faire partie être un référent en fait sur la création locale. Et le fait d'être bien identifié, en fait, ça nous permet d'avoir une recommandation qui a un impact beaucoup plus fort. Donc pour moi, c'est vraiment des choses qui se nourrissent les unes les autres. Donc on fait de la recommandation qu'on dissémine vers des publics très variés, ça nous permet d'être bien identifiés et l'impact de cette recommandation est donc plus importante. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un panorama de ce qu'on fait actuellement, avec toujours donc le souci de laisser une place plus grande à la musique dans toute sa diversité. Merci.
Merci beaucoup Juliette. Alors c'est vrai que c'est la présentation qui vient d'être faite, c'est quasiment une sorte de panoplie de marketing musical à destination des bibliothèques, justement. Donc je trouve que c'est très intéressant en termes de diversité de propositions. Et je trouve que c'est assez proche, finalement, des questions que se posent les musiciens eux-mêmes aujourd'hui, donc musiciens amateurs ou semi-professionnels ou futurs professionnels, quand ils se disent comment je vais exister dans cet environnement numérique. C'est-à-dire que vous avez des plateformes en ligne aussi de formation, d'aide, vous avez aussi des structures, l'IRMA, la Cité de la Musique, qui viennent en appui et en soutien donc, aux musiciens. Et c'est assez intéressant de voir comment finalement nos démarches se rejoignent aussi, et donc ça préfigure peut-être des échanges de futures rencontres nationales de bibliothécaires musicaux sur un sujet comme celui-ci. Alors je trouve très intéressant aussi de donner la parole ce matin à Damien Poncé, médiateur numérique à la bibliothèque musicale, à la médiathèque musicale de Paris. Alors, médiathèque musicale de Paris, justement, c'est pas neutre non plus. Et comme je le disais avant, je pense que c'est d'autant plus important que la médiathèque musicale de Paris a constitué, donc dans les années 80, cette identité, non plus seulement autour d'un support que pouvait être le CD ou le vinyle, mais vraiment la notion de bibliothécaire musical, donc en ayant en fait une attention portée sur l'ensemble de la documentation musicale et non pas seulement sur une partie de un seul segment d'une collection musicale que pouvait être, par exemple, une collection de CD. Donc aujourd'hui, l'évolution du poste même de Damien, je trouvais assez emblématique de ce que peut devenir finalement notre métier dans nos collectivités, quelle que soit peut-être leur taille, mais ça c'est une interrogation qu'on pourra se poser plus tard lors des échanges aussi.
Merci. Oui, donc quand on nous a proposé de présenter un projet devant vous ce matin, on porte plein de projets différents à la médiathèque et je vous invite à aller voir concrètement ce qu'on peut vous proposer cet après-midi sur le stand. Et en effet, je voulais plutôt parler du poste que j'occupe depuis un peu plus de 5 ans, qui n'est pas une évolution de poste, parce que c'est justement c'est une création de poste, qui est un poste de médiateur numérique. Alors médiateur numérique, ça implique beaucoup de réalités suivant les types d'établissements. Nous, on l'entend vraiment comme médiation culturelle, médiation de la musique via des outils numériques. Ce poste est d'ailleurs intégré en fait au pôle médiation et action culturelle de la médiathèque, qui est un pôle qui compte aujourd'hui 4 personnes sur une équipe d'un peu plus de 30. C'est important, c'est un signal fort qui a été envoyé par la direction de dire l'importance qu'on accorde aujourd'hui à la médiation dans une bibliothèque musicale. Et la création d'un temps plein, d'un poste dédié à la médiation numérique est un signal d'autant plus fort pour dire que aujourd'hui, la médiathèque a choisi de se préoccuper pleinement de ses préoccupations, en tout cas de se donner les moyens, si ce n'est de trouver des réponses, au moins de se poser des questions pour avancer et pas juste avancer à côté de Spotify, à côté de Deezer, mais d'essayer de réfléchir concrètement à tout ça. Alors, on ne s'est pas lancé comme ça. Il y a eu un travail qui a été fait avec des étudiants de l'ENSIB à qui on a confié comme thématique quelle identité numérique pour la médiathèque. Ils ont fait un travail qui était très intéressant de benchmark, de réflexion. Ils nous ont proposé plusieurs scénarios. Le scénario qu'on a retenu, c'est celui qui est à la fois le plus ambitieux et le plus pertinent, c'est celui de créateur de contenu. Création de contenu, c'est-à-dire proposer, se positionner sur Internet en tant que médiathèque avec du contenu de médiathèque musicale. Parce que ce qui est compliqué finalement dans cette histoire, c'est évidemment de ne pas se positionner, de ne pas aller sur le terrain de Spotify, Deezer, même de Sens Critique, de choses qui sont très établies parce qu'on n'a pas la même force de frappe, on n'a pas la même pertinence, on ne sait pas le propos, mais bien d'aller sur ce terrain-là avec nos savoir-faire, celui de médiateur, de bibliothécaire, et c'est un métier qu'on peut tout à fait continuer en ligne. Du coup, quand on dit création de contenu, ça va être alors les fameuses playlists dont on pourra peut-être questionner, il y en a tellement que la pertinence, moi je commence à me poser des questions, mais ça peut être un des sujets de tout à l'heure. Des mix, alors les mix pour nous c'est des mix à partir de nos photos patrimoniales, donc plutôt faire entendre des choses qui sont rares et qu'on a peu l'occasion d'entendre, faire des cartes interactives, des expositions en ligne, et aussi capter notre action culturelle et la rediffuser. Et en fait, depuis 4-5 ans maintenant, le résultat est plutôt franchement positif, dans le sens où on se rend compte qu'on a créé finalement un public qui nous suit en ligne et qu'aujourd'hui on considère pleinement comme un public de notre médiathèque. De la même façon qu'on a nos publics emprunteurs, inscrits, non inscrits, voilà. Nous on a ce public-là qui vient nous suivre à la fois sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux restent une vitrine, on est d'accord, de ce qu'on va montrer et de la création de contenu. Mais on se rend compte que nos mix sont écoutés, que les vidéos sont vues, et d'autant plus pertinent, ce qui est plus pertinent et qui montre qu'on finalement on a à peu près le même public qui fréquente notre établissement et qui vont suivre nos propositions en ligne, c'est que ce qui va être le plus vu sur YouTube par exemple, ce sont nos conférences les plus pointues sur, je sais pas, la musique russe de 1917, musique et mathématiques, des sujets de musicologie franchement pointus, et que les extraits de concerts ou les coulisses des bibliothèques, chose qu'on voit beaucoup, sont beaucoup moins consultés et beaucoup moins vus. Et de la même manière que le public qui vient à la médiathèque musicale de Paris reste un public, on va dire, d'amateurs éclairés, si ce n'est de spécialistes. Voilà, donc pour répondre, je rebondissais à la conclusion de la conférence de tout à l'heure. Je pense que notre rôle n'est pas forcément que, en tout cas en ligne, de la recommandation, parce qu'on est sur un terrain qui est massif et qui est bien occupé par toutes ces questions-là, mais celui de la médiation. L'idée aussi, c'était en effet de ne pas recréer une énième chose à mettre sur son téléphone, mais bien d'aller là où sont déjà les gens. C'est pour ça qu'on investit les médias sociaux, les réseaux sociaux et les outils que les gens ont déjà sur leur téléphone, pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. L'idée, ce n'est pas de leur proposer une énième icône à rajouter, mais plutôt d'aller sur YouTube, sur Mixcloud, sur les playlists en ligne, et de s'imposer en tant que médiathèque, de ne pas réinventer la roue, parce que finalement, si des gens vont faire le choix de suivre une médiathèque sur Facebook, c'est bien qu'ils veulent trouver un contenu propre à une bibliothèque, une médiathèque, sinon ils désiraient suivre Libé, Le Monde, Sens Critique ou autre. Donc s'ils suivent sur les réseaux sociaux une bibliothèque, c'est bien pour trouver du contenu propre. Pour terminer, je voulais juste dire que une autre réussite de ce choix qu'a été fait de la médiathèque de s'approprier pleinement ce sujet, c'est qu'aujourd'hui, d'une part, je ne fais plus du tout que je fais pas que du numérique, on reçoit des artistes, on fait de la programmation, on fait le son et le café. Et aussi, c'est que je ne suis plus du tout seul, même si c'était le poste que j'occupe a été créé pour ça, à m'occuper de cette question-là. Au sein de la médiation, ma collègue Dora Balani, qui fait partie de la CIM, on se partage pleinement ces questions-là, et même de manière plus générale, de façon insidieuse, plusieurs collègues, alors c'est souvent le sujet, oui, mais les collègues ne veulent pas le mettre la main à la patte, finalement, ils contribuent à cette médiation numérique. Des collègues qui sont responsables des acquisitions s'emparer de SoundsGood pour faire les playlists des nouveautés. D'autres personnes qui vont faire petit déjeuner ou écoute commenter, enfin ce format-là, vont pouvoir fournir des liens pour proposer une version en ligne et continuer ce qu'on a proposé in situ pendant une heure dans laisser une trace pérenne sur le numérique. Des collègues qui vont suivre, connaître très bien ce genre, vont pouvoir nous faire remonter une sélection de documents pour faire un mix, etc. etc. Et finalement, le fait d'avoir initié un poste comme ça qui permettait de réfléchir à une direction, on se rend compte que finalement, ça fonctionne et qu'aujourd'hui, on est identifié comme une médiathèque en ligne avec des milliers de personnes, parce qu'on parle de milliers de personnes qui vont écouter ou voir nos propositions en ligne.
Merci beaucoup, Damien. Je vais donner la parole à David Mencier, qui est conseiller donc pour la collection Rock Pop Electro et chef de projet donc Beatbank donc et Belgium Underground, peut-être pas prononcé de manière idéale. Donc c'est le point culture à Bruxelles. Alors la présentation de ce matin, nous mettons l'accent donc justement sur l'application alors Belgium Underground, mais je pense que dans les échanges que l'on pourra avoir, et ça a déjà été évoqué aussi, il y a aussi des enjeux et des questions qui se posent, par exemple sur l'évolution du point culture lui-même, qui notamment se dessaisit actuellement d'une grande partie de ses collections physiques. Donc je pense que c'est une décision qui est pesée, réfléchie et qui pourra aussi être partagé avec l'Assemblée. Donc je laisse la parole à David.
Voilà, mon non-verbal tout à l'heure a parlé un petit peu par rapport aux collections de points culture, mais sans doute qu'on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc Belgium Underground, donc avec un collègue, c'est une idée que nous avons eue il y a à peu près 3 ans. Il s'avère que chez nous, donc Point Culture, c'est l'ancien réseau des médiathèques dans la fédération Wallonie-Bruxelles, donc Bruxelles et le sud de la Belgique. Et nous avons déjà, les médiathèques chez nous existent depuis les années 50. Il a fallu, après les années 2000, au début des années 2000, se repositionner, ou en tout cas tenter des expériences, sortir un petit peu de nos zones de confort pour tenter des choses aussi de type de médiation autour des collections. C'est ce que nous avions fait il y a 10 ans déjà avec un projet que vous connaissez peut-être qui s'appelle Archipel, qui avait été mené par un collègue qui s'appelle Yves Poliard. Puis ensuite Beatbank, qui était vraiment une mise en valeur des musiques électroniques à partir donc des BPM. Donc on recherchait un disque à partir de sa vitesse plutôt de danse que de véritablement un axe alphabétique. C'était plutôt donc les années et le BPM. Et maintenant Belgium Underground. Donc Belgium Underground, c'était l'idée de mettre en avant des catalogues de musique qui existent et qui quelquefois sont même difficiles à trouver sur les musiques indépendantes en Belgique. Donc tout ce qui émane en fait du do it yourself. Alors on est remonté Alors, c'est des choix que nous avons faits, évidemment, qui sont critiquables ou pas, mais en tout cas, on a essayé d'être le plus cohérent possible. C'est-à-dire qu'on est parti du punk, donc on est parti vraiment de cette zone-là, alors que le do-it-yourself, comme vous êtes sûrement nombreux à le savoir, part plutôt des années 50, même, voire même avant, avec des gens dans le jazz qui ont créé leur propre structure pour faire exister leur sortie discographique. Mais donc nous on est parti du punk parce que c'est vraiment le moment clé, un moment qui va tout changer, qui a encore une influence fondamentale aujourd'hui dans la manière, je veux dire le mot vulgairement, de consommer de la musique, ou en tout cas de la pratiquer, de la développer, de la diffuser. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, à partir de effectivement 1976, les dates sont très importantes pour le punk, entre 76 et 77, eh bien, il va y avoir toute une émergence de groupes, de gens, de musiciens, musiciennes, qui ne croyaient pas pouvoir faire de la musique parce que ça n'appartenait justement qu'à des groupes plutôt de rock progressif à cette époque-là, même si je caricature un peu, mais c'est un petit peu ça qui se passait. C'était des gens qui faisaient des longs solos, des morceaux qui faisaient plus de 20 minutes, etc. Alors il y a des choses très bien là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui se sentaient exclus de ça. Et le do-it-yourself, c'est grâce à des groupes qui vont faire avec très peu de choses, que ce soit Television, les Sex Pistols, les Talking Heads, les Ramones. Et donc cette émergence-là va faire qu'à partir de 76, il nous paraissait cohérent de montrer, de commencer notre histoire donc avec cette période. Alors vous voyez que cette carte, bon, c'est pas la carte de la Belgique. Au départ, mon collègue et moi, Benoît Deuxan, on voulait que ce soit une carte de Belgique, mais on s'est dit que finalement, on le ferait de façon plus organique. Avec, vous avez vu, enfin, je vais vous faire une toute petite présentation, donc trois icônes différentes, vous allez voir, je vais vous les montrer, et aussi une histoire, une ligne du temps. On a délimité le temps entre 1976 et aujourd'hui, voire demain, entre, vous le voyez, six catégories. Donc la première, ce sont effectivement les punks, mais les punks de 76, 77, c'est très important. Vous pouvez faire du punk aujourd'hui, mais le punk de base, le début, c'est vraiment ces années-là. C'est, après 77, c'est No Future, il n'y a plus le punk, mais évidemment, il va y avoir des réminiscences et une influence du punk encore pendant des années, encore aujourd'hui. Donc vous voyez que sur la carte, c'est tout ce qui est en rose, et vous voyez qu'il y a très très peu d'éléments. C'est parce qu'aussi, avec ce projet, c'est ça qui était intéressant, j'avais dit que je ne dirais pas le mot projet, mais bon, voilà. Donc Benoît Deuxan et moi, on s'est rendu compte qu'à partir d'éléments qu'on connaissait, parce que nous on est parti vraiment dans l'inconnu, mais à partir d'éléments qui viennent du net, donc des outils qui sont du net sur Discogs, sur Rature Music aussi, qui était un site qui était avant Sens Critique, qui n'est pas très sexy, mais qui est un site vraiment encore qui fait sens, je trouve. Voilà, tous ces sites-là, on les a utilisés pour essayer donc de retrouver un maximum d'éléments sur notre carte. Il y en a à peu près 4000 au total, donc que ce soit des labels, des personnes, donc les gens qui ont fait ces musiques-là, et les groupes. Donc tout ça se retrouve sur la carte, mais au départ on ne savait pas dans quoi on allait. On est parti d'éléments qu'on connaissait, qu'on pouvait trouver sur le net, pour aller vers des éléments, et ça m'a beaucoup rassuré sur l'état du monde actuel, des éléments qu'on ne connaissait pas, tout simplement parce qu'on est allé à la rencontre des personnes. En fait, en allant à la rencontre des gens qui ont vécu ces scènes-là à l'époque, ben, ils vont vous raconter plein de choses sur des scènes qui existaient mais qui ne sont pas référencées sur Internet. Et ça pour moi c'est la clé de beaucoup de choses, c'est qu'on essaye de nous inculquer que Internet, il y a tout sur Internet, c'est ce qu'on nous répète à longueur de journée. En fait, non, il n'y a pas tout sur Internet. Il y a beaucoup de choses, mais il y a encore plein de choses qui sont inconnues du fait que c'est vraiment que ceux qui l'ont vécu ou que ceux qui ont diffusé les choses de façon très confidentielle qui connaissent finalement les choses. Donc moi, on m'a appris des choses sur la scène, je ne sais pas moi, liégeoise, hardcore de 1983 ou la scène anversoise de 82 de synth-pop que je ne connaissais absolument pas avant de travailler sur cette idée donc de Belgium Underground. Donc après les punks c'est vraiment ça, c'est le début. Il y a juste après ça une période que nous on a appelée Wave. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Wave, donc ça, c'est lié à tout ce qui est No Wave, Cold Wave, c'était pour pas qu'il y ait de petites guerres de chapelle. Donc ça, c'est vraiment le début des années 80. Et alors, chez nous, quelque chose qui peut paraître, qu'on a appelé arty, donc ça, c'est Benoît et moi qui avons choisi ce terme, du fait qu'en Belgique, il y a une émergence, début des années 80, de toute une scène liée à des endroits désaffectés, des usines désaffectées, un petit peu à l'instar de ce qui a pu se passer également en Angleterre, aux États-Unis. On n'a rien inventé, nous, en Belgique, mais il y avait... Bruxelles était une ville qui n'est pas encore celle d'aujourd'hui, la capitale de l'Europe, la capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était... Il y avait, comme me disait quelqu'un de l'époque, il fallait tout prendre, il fallait... Tout était à prendre. Il y avait plein de locaux qui étaient vides, plein d'usines, effectivement, qu'on pouvait, comme cela, dans lesquelles on pouvait organiser des concerts, mais pas que. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça artiste, c'est que vous aviez plein de gens qu'il y avait des velléités plutôt très transversales au niveau artistique, pluridisciplinaire. On est allé vers des choses qui pouvaient être à la fois une lecture de William Burroughs dans la même soirée, un concert de Joy Division, ou une séance de culturisme, c'était annoncé comme ça sur les flyers de l'époque, d'une salle mythique à Bruxelles qui s'appelle le Plan K. Et donc il y a trois labels en Belgique à cette époque-là, qui sont les Disques du Crépuscule, Sobrosa, Crameux de Disque. C'est vraiment ces labels-là qui vont faire que, bah, justement, dans une compilation qui s'appelle par exemple From Brussels With Love, vous pouvez trouver à la fois une interview de Jeanne Moreau, une œuvre de Satie et un morceau de synth-pop anglais sur la même compilation. Et donc on a voulu mettre ça en avant ici. Donc je disais après Wave, et puis juste après une autre zone qui s'appelle la New Beat. Alors pendant des années chez nous en Belgique, il ne fallait plus nous parler de la New Beat, parce que la New Beat en fait c'est devenu tellement commercial à la fin de ce mouvement que vraiment les gens ne s'en réclamaient plus. Et puis il y a un film qui heureusement a remis la New Beat sur la sphère des musiques vraiment underground, car c'est vraiment une des musiques underground qui a eu le plus d'influence vers l'extérieur, en tout cas à l'étranger, aux États-Unis, sur des DJ ou des musiciens, que ce soit des gens comme Trent Reznor ou Carl Craig, ils se réclament beaucoup de cette scène New Beat, donc qui est un moment clé de musique électro-body music, avec des DJ éclairés qui vont tout d'un coup ralentir des disques qu'il fallait en fait passer en 45 tours et qui vont les passer en 33 tours. Ça va créer une musique oppressante dans certaines boîtes, des boîtes mythiques en Belgique qui s'appellent par exemple Boccaccio. Et voilà, ça va créer cette scène New Beat et ça va avoir une influence déterminante sur... C'est vraiment une musique qui est typiquement, par rapport au reste, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu ces autres musiques à travers le reste de l'Europe ou dans le monde. Cette New Beat-là, elle n'appartient finalement qu'à nous. Et puis alors les guitares, alors oui c'est un peu réducteur parce que les guitares il y en a toujours eu, mais d'une certaine manière, enfin en tout cas depuis le punk, mais les guitares parce que chez nous au niveau des années 90 vous avez un groupe comme Deus qui émerge et qui va faire qu'il va y avoir énormément de groupes basse, batterie, guitare dans les années 90. Deus, pourquoi Deus par exemple se retrouve dans un projet comme celui-là qui est un projet sur les musiques underground, c'est parce que Deus, on l'oublie un petit peu, aujourd'hui c'est un groupe signé sur Universal, mais à la base c'est une musique qui se réclamait de Captain Beefheart, de Père Ubu, de musique vraiment vraiment plutôt indépendante des années 70, et ils ont signé sur un label, eux c'est des Anversois, ils ont signé sur un label à Jambes qui s'appelait Bang, et qui est un label wallon, donc tout près de Namur, et voilà, au début c'est une musique qui est faite avec très peu de choses et qui va effectivement devenir plus grosse par après. Et alors pour faire le lien avec le punk, la dernière période, parce que c'est très difficile d'avoir un recul par rapport à ce qu'on a pu vivre ces 20 dernières années. On a seulement des livres qui commencent à nous raconter comment ça se passait au niveau des années 2000. Il faut avoir un certain recul. Mais pour nous, ce qui fait sens et qui fait le lien avec le punk, c'est les micro-labels. Donc les micro-labels, c'est effectivement la même chose finalement que le do-it-yourself à la façon punk, si ce n'est que les supports ont changé, ont évolué. Il y a toujours la cassette, il y a des réseaux cassettes qui reviennent. Il y a le vinyle, il y a le CD, mais il y a aussi le stream qui vient se rajouter à ça. Et là-dedans, donc c'est pas vraiment une application ou un site internet qui est tourné vers le passé uniquement, c'est tourné aussi vers les labels. Vous voyez que les micro-labels, il y en a vraiment énormément. Comme disait John Peel, quand il recevait justement sa pile de disques tous les matins, le DJ anglais de la BBC, il recevait des piles comme ça de nouveaux disques à l'époque justement du do-it-yourself du punk. Il disait, je découvrais à la fois des groupes dont j'avais jamais entendu parler, sur des labels que j'avais jamais entendu parler, et je connaissais et des villes dont j'avais jamais entendu parler en Angleterre. Donc en fait, il découvrait, et c'est un peu la même chose ici, donc c'est une chose qui nous a vraiment poussé à le faire, c'est que je vais terminer ma présentation en vous montrant un peu quand même deux secondes un exemple, donc un label ici qui est Crameux de Disque. Vous avez tous les noms des artistes qui ont signé sur Crameux de Disque. Si à un moment, vous voyez, je vais mettre un français puisqu'il y a des expats, dont on a choisi de mettre des expatriés qui ont travaillé beaucoup en Belgique et qui sont sur ce label. Eh bien, à partir de là, on voit plus ou moins donc quel est le réseau de la personne. Et ça, c'est très important par rapport à tout ce qu'on peut voir comme site internet qui sont sur le terme algorithme. Nous, on n'est pas sur des algorithmes, on est sur des personnes en fait. Qu'est-ce que les personnes ont fait? Hector Zazou, qu'est-ce qu'il a fait? Je peux vous montrer un musicien qui s'appelle Stéphane Barbery. C'est le plus éloquent parce que c'est assez impressionnant. Il est toujours actif aujourd'hui. Voilà le réseau de ce musicien. Donc lui, il a travaillé dans plein de groupes, toute la liste de groupes que vous voyez, depuis le punk jusqu'à maintenant. Et il a été graphiste pour divers artistes, puisqu'on a voulu mettre ça aussi en évidence. Donc c'est pour montrer qu'on n'est pas sur « Ah, vous avez écouté ceci, vous allez écouter cela ». Non, voici donc Stéphane Barbery, son univers, qu'est-ce qu'il a fait tout au long de sa carrière, et vous pouvez comme ça découvrir plein d'autres choses, plein d'autres strates de musique à partir d'un seul élément sur notre carte. Voilà, j'ai pas montré tout ce qu'il y avait, mais je crois que j'étais un petit peu...
Merci, c'est parfait en tout cas pour la question du timing, mais aussi sur les contenus et les perspectives en tout cas proposées. Je rappelle au passage d'ailleurs que la BPI avait été partenaire du projet Archipel à l'époque. Je me souviens qu'il avait été présenté ici. Je trouve aussi intéressant de dater en fait cette démarche à partir de la période punk, donc avec cet esprit no future qui finalement n'abandonnait pas une envie de destin et d'avenir, mais c'était plutôt une revendication d'un positionnement différent, donc une revendication de scène alternative et non pas de scène commerciale et de diffusion commerciale et de marchandisation, on va dire, des contenus musicaux et des musiciens eux-mêmes. Donc même si certains groupes punk ont parfois connu des destins quand même très, très médiatiques, on le sait. Je trouve aussi intéressant de voir relayer ici cet aspect un peu miroir déformant d'Internet et de la recommandation musicale, donc cette bande originale de nos vies que l'on tisse tous en écoutant de la musique sur Internet, mais qui finalement fait un portrait de la musique qui est nécessairement, entre guillemets, un peu monstrueux, d'une certaine manière. Ça n'est pas un motif nécessairement significatif, en tout cas pour certains genres ou pour certaines démarches musicales. Alors justement, il y a une progression, vous l'aurez aussi compris dans la table ronde. Donc on parle d'expérience de terrain exprimée, disons Lyon, Paris, Bruxelles. Et je trouve intéressant de glisser en fait sujet par sujet vers des thématiques. Et donc je remercie donc beaucoup Vincent Castaignet d'être avec nous ce matin. Donc, il réévoquera les différents types de recommandations de son point de vue, on va dire de son ancrage professionnel, donc en tant que chercheur entrepreneur. Mais justement, il abordera aussi cette question de la diversité en tant que concept. Comment est-ce qu'on peut mesurer cette notion de diversité? On a aussi eu quelques touches déjà dans la conférence ce matin et dans l'évocation qui vient d'être faite par David. Et puis ce concept tout particulier de découvrabilité, que je lui laisserai justement la primeur un petit peu pour cette présentation de ce matin.
Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Moi je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Musicovery, c'est un moteur de recommandation musicale. Et pour nous, l'algorithme est toujours assujetti à l'expérience qu'on veut proposer. Donc en fait, il n'y a pas d'algorithme dans l'absolu. Il doit servir en fait une expérience qu'on compte proposer à un auditeur. Alors, première chose, c'est que quand on fait écouter un morceau de musique, alors typiquement un artiste de pop rock qui chante en anglais à quelqu'un qui ne connaît pas cet artiste, et si on lui demande est-ce qu'il est intéressé pour écouter cette musique, souvent il est un peu désemparé parce qu'il n'est pas capable de situer cet artiste. Et donc c'est très difficile pour un auditeur qui n'a pas plus d'informations ou pas de raison d'écouter un artiste qu'il ne connaît pas. Et donc l'un des enjeux de la recommandation, c'est de pouvoir l'amener à trouver un intérêt à écouter cet artiste. Beaucoup des algorithmes aujourd'hui qui sont développés typiquement par Spotify, Deezer et plateformes numériques, donc s'appuie sur deux types de données. L'une, c'est la description des contenus musicaux, et l'autre, c'est les comportements et les préférences des utilisateurs. Donc ça permet en fait de produire des types de recommandations contraignent l'auditeur autour de ses préférences musicales qui crée des bulles de filtre, c'est-à-dire que vous avez un auditeur, généralement il a trois sous-genres favoris. Et ce type d'outil permet de naviguer de manière quasiment illimitée dans ces univers-là. Donc pour beaucoup de gens, en fait, ça correspond aussi à l'expérience que vous faisiez quand vous étiez à la FNAC. Vous avez quelques sections qui vous intéressaient et vous naviguez. Et là, l'avantage, c'est que vous pouvez écouter directement, quasiment sans même interagir avec votre téléphone ou votre ordinateur. Et pas aller à des bornes d'écoute pour écouter pendant 30 secondes un extrait. Donc ça, c'est une forme de recommandation, alors qui ne représente pas non plus en fait, la plus grosse partie des écoutes sur ces services, hein, mais, et qui aujourd'hui est assez critiquée. Elle remplit un rôle, mais c'est clair qu'il faut, y a d'autres manières de construire les expériences. Donc ça, c'est un premier point. Je vais me permettre aussi de revenir sur une des choses qui a été dit tout à l'heure, c'est que la prescription en radio était encore toujours très dominante. Et il faut aussi dire que l'audience cumulée des radios est encore bien supérieure aux services de streaming. Donc il faut aussi, la causalité, c'est pas forcément que les services de streaming font des moteurs de recommandation qui sont mauvais, c'est aussi parce que l'audience cumulée des radios est encore considérable. Ça, c'est un élément important à garder à l'esprit. Sur la notion, alors aussi un autre élément, c'est que si vous regardez l'impact du streaming sur la diversité et la concentration des écoutes et des achats, si vous prenez la recherche qui a été faite par le DEPS, donc le département de recherche du ministère de la Culture, et qui a été publiée donc, l'année dernière sur les données de 2016, on se rend compte que si on prend le top 1000 qui était vendu via le support CD, le top 1000 représente 61% ou 63% je crois des achats, alors que le streaming, le top 1000 représente 23%. Donc je crois que c'est important de comprendre qu'il y a eu une très forte réduction de la concentration. Et c'est en particulier dû au fait qu'au lieu d'avoir une approche top-down dans la structuration de l'industrie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décideurs, que ce soit les radios, les télévisions, la presse, qui définissent, qui font des propositions d'écoute, et derrière, les personnes vont acheter les supports dans les magasins. On est passé à un système où la rencontre entre un public et les artistes se réalise sur une base où la granularité est beaucoup plus fine. Ça ne veut pas dire que les auditeurs vont aller écouter eux-mêmes plus de genres différents, mais en tout cas, en termes de concentration, il y a une très très forte diminution de la concentration. Alors sur le problème de la diversité, il y a des indices qui ont été créés pour essayer de mesurer cette diversité. Mais la plupart des chercheurs n'arrivent pas à calculer ces indices. C'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais ce serait intéressant que dorénavant les chercheurs essayent davantage d'essayer de produire ces indices qui permettent de mesurer l'évolution, alors soit dans le temps, soit géographiquement, de la diversité musicale dans les pratiques, que ce soit au niveau de l'offre, au niveau de la diffusion et des écoutes. Donc ça, et en particulier, si on voit par exemple sur les plateformes musicales en France, les derniers chiffres montrent qu'effectivement, un genre comme le classique, historiquement, on a été à 5%, on est monté à un moment donné à 10% des transactions. Et aujourd'hui, on a moins de 0,5%, c'est-à-dire qu'au niveau sur les plateformes de streaming, on est passé à un niveau qui est vraiment très très faible. Et c'est une mesure aussi de l'évolution de la diversité. Donc même s'il y a eu une très forte réduction de la concentration, il y a eu aussi une évolution dans la répartition des genres et le fait que certains genres aujourd'hui ne correspondent pas forcément aux attentes des auditeurs. Une chose aussi importante, c'est de distinguer la notion de recommandation, qui est la personnalisation, et de celle qui est plutôt de la prescription. Un auditeur aujourd'hui, avec des outils de recommandation algorithmique, peut véritablement naviguer de manière assez dans les univers qui les intéressent, par opposition à la prescription qui, elle, définit, on va dire, un catalogue, fait des sélections dans les titres qui sont proposés à l'écoute et surtout qui produit soit un discours sur la musique, soit qui propose une interface pour accéder à ces contenus. Donc on a vu pas mal d'exemples. Et là, c'est clair qu'aujourd'hui, les plateformes sont pas capables de proposer ces types d'intermédiation. Et il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire. Ce qui a été montré montre à quel point il y a un espace à occuper pour présenter des manières de donner accès à la musique de manière très très différente, et pas seulement les interfaces qu'on a vues sur Spotify, YouTube et autres. Et en particulier, si on prend une plateforme comme Qobuz, qui a essayé de se positionner sur la qualité de l'éditorialisation, alors donc c'est au moins faire un petit article sur la sortie d'un nouvel album, sur la présentation de genres musicaux, qui effectivement constitue un investissement important hein, pour la plateforme. On ne l'a pas retrouvé sur d'autres services, et il y a clairement un rôle à apporter par les médiathèques en particulier pour reformuler à la fois les interfaces qui permettent d'accéder au contenu et également produire un discours sur la musique. Et je pense que ça, c'est vraiment clé. Voilà.
Merci beaucoup. Alors je vous propose donc de clore la table ronde, non pas en fait en partie échange, mais justement en partie présentation, avec Sofian Fanen, donc qui est journaliste spécialisé musique, donc et en particulier sur l'industrie musicale, les questions de streaming, donc d'histoire de la musique, auteur donc de Boulevard du Stream, donc du MP3 à Deezer, la musique libérée. Alors c'est presque un slogan ou un mot d'ordre, donc ce titre, donc on pourra justement le questionner. Donc c'est édité au Castor Astral en 2017. Voilà, alors l'intérêt aussi d'ouvrir finalement ces réflexions à un journaliste, c'est peut-être finalement d'avoir une vue peut-être d'ensemble aussi, des questions peut-être beaucoup plus détachées de, on va dire, des contextes, de notre contexte strictement, celui du monde des bibliothèques, mais aussi celui du monde de la production de contenu et de savoir, mais là plutôt de l'analyse, de la compréhension de l'évolution des pratiques.
Bonjour, merci. Effectivement, sur le titre de mon bouquin, pour revenir, pour ouvrir le principal regret que j'ai avec ce livre, on a toujours des regrets quand on écrit un livre. Le principal regret, c'est pas avoir mis un point d'interrogation à la fin du titre. On l'a vraiment décidé à la toute fin. Voilà. Et il en faudrait un. Je pense que s'il y a une deuxième édition, si toutes les médiathèques achètent mon livre, il y aura peut-être une deuxième édition. Et je mettrai un point d'interrogation à la fin de ce livre parce qu'en fin de compte, il est nécessaire. Effectivement, moi, je travaille. J'étais à Libération avant. J'ai travaillé pour FIB. J'ai travaillé pour France Culture. Enfin, je travaille sur la musique, on va dire, dans sa globalité, en tant que journaliste musical plus que critique, et aussi. Comme je suis arrivé dans le métier, en tout cas quand j'ai commencé à avoir des vrais emplois dans le secteur, on était en plein débat sur la loi d'AFSI, puis loi Adopi, on était en plein débat sur les échanges en ligne, le piratage, le peer-to-peer, etc. Donc je me suis plongé là-dedans parce que ça me paraissait impossible de parler de musique à cette époque-là sans comprendre ce chambardement, ce qui a mené à mon livre à la fin. Et je travaille sur aujourd'hui donc pour lesjours.fr, média en ligne sur abonnement. Je vous incite aussi à faire abonner vos médiathèques. Et sur la révolution du streaming, en partant du principe que c'est probablement, disons, les 20 années qui ont mené de la libération de la musique globalement, mais en ligne en l'occurrence, à la toute fin des années 90 pour le grand public, jusqu'à l'installation de l'écoute en streaming, encore une fois grand public, sont un séisme que moi je compare dans mon livre et aux 20 années aussi qui vont de la musique enregistrée, la radio, etc., au début du XXe siècle, si on resserre un petit peu tout ça, on est dans quelque chose d'aussi majeur, et moi ça m'intéressait d'essayer de comprendre tout d'abord et d'essayer de donner à comprendre. Donc voilà, moi j'ai cette posture-là hein, de journaliste, je suis ni chercheur, ni bibliothécaire, j'essaye d'aller voir les gens qui me permettent de comprendre. Et d'ailleurs souvent quand on va voir les gens, on se rend compte qu'eux-mêmes ne comprennent pas et qu'il y a besoin de médiateurs aussi pour donner à comprendre au sein du monde de la musique. Ils sont globalement assez perdus, par exemple, hein, dans les maisons de disques, ou en tout cas ils l'ont été très largement pendant toutes les années 2000-2010, sur cette mutation. Ils étaient totalement perdus, et la presse et les chercheurs ont aussi servi à permettre d'expliquer ça. J'ai réfléchi à ce que, pendant que j'entendais tout le monde, à ce que j'allais bien pouvoir dire en parlant de cette position. Et ce qui m'intéresse finalement, c'est... moi, je suis très attaché aux médiathèques. J'en parle dans la préface de mon livre, où je raconte comment, lycéen puis étudiant, je prenais les cartes de médiathèque de mes sœurs pour ramener le maximum de CD possible à la maison le samedi, et comment, quand Napster est arrivé en 99, ça a changé ma façon de découvrir la musique, d'aller vers la musique et d'aller à la médiathèque aussi, parce que tout d'un coup pourquoi attendre 6 mois pour pouvoir écouter Two Tom Waits alors que je peux télécharger Two Tom Waits dans la même soirée. Bon, je me suis fait beaucoup gronder par mes parents ce soir là mais ça coûtait cher en bande passante. Mais en tout cas, effectivement, en fait, le nœud de la question qui vous rassemble ici, il se situe dans cette soirée là c'est à dire la semaine d'avant j'allais faire le pied de grue à la médiathèque pour m'inscrire sur des listes pour avoir tel album de Tom Waits, tel album de tel artiste, tel album de tel artiste, parce que je voulais découvrir tous ces artistes et de toute façon j'avais pas les moyens de les acheter. Et tout d'un coup, bah, j'avais plus besoin d'aller sur cette à la médiathèque m'inscrire sur ces listes parce que toute la musique était tout d'un coup disponible. Aujourd'hui, je pense que finalement cette question-là, on l'a bien dit, ça a été bien dit, la question de l'accès à la musique, elle est réglée finalement. C'est plus pour ça, je pense, qu'on vient dans une médiathèque musicale. Je vais revenir peut-être sur ce point après, parce que je pense qu'il y a quand même énormément de choses pour lesquelles les médiathèques musicales ont un rôle absolument crucial sur l'accès et la conservation de patrimoine, de catalogue. Mais finalement, une médiathèque musicale, probablement aujourd'hui, doit être ce qu'une plateforme de streaming n'est pas. C'est ce qui est en creux de tout ce qui a été dit. Et... s'il y a bien une chose que les plateformes de streaming ne sont pas, c'est peut-être un peu caricatural de le dire, c'est que c'est pas les entreprises qui viennent de la musique. Il faut le rappeler tout le temps, je le rappelle systématiquement. Spotify, il y a un livre très intéressant qui s'appelle Spotify Teardown, qui n'a pas été traduit. C'est une équipe de chercheurs suédois qui est sortie il y a quelques mois, l'année dernière, je ne sais plus, qui raconte la genèse de Spotify. Spotify, c'est une équipe de gens... plutôt de gens qui viennent de l'informatique, du développement, qui veulent faire une plateforme commerciale sur des contenus culturels. Et donc, ils vont vers la musique, ils vont vers le cinéma, vers le jeu vidéo, vers le livre, etc. Et puis finalement, on est en 2006-2007, et c'est la musique qui est prête à ce moment-là, beaucoup plus que le cinéma qui l'est toujours pas, le livre, c'est une autre problématique, etc. Et donc, ça devient une plateforme de musique. Mais fondamentalement, ce n'est pas leur truc. Je ne sais pas si vous avez suivi les goûts musicaux de Daniel Ek, le fondateur de Spotify, sur la plateforme. On voit bien que ce monsieur ne vient pas de la musique. C'est une réalité fondamentale. J'étais chez Deezer la semaine dernière pour discuter des algorithmes, etc. Deezer, les équipes de recommandation, c'est une vingtaine de personnes dans un coin, et il y a 3 étages de développeurs, de gens qui font du tagage de morceaux, etc., de gens qui font des algorithmes. Donc fondamentalement, ce sont des entreprises qui n'ont pas de culture musicale et qui doivent la construire. C'est des entreprises qui viennent de la gestion de données. Leur métier et leur business, c'est de faire de l'argent avec la donnée de nos écoutes et de nos comportements, et de nous vendre, de nous revendre, comme ça a été dit dans la conférence inaugurale, de nous revendre nos comportements pour nous attirer vers l'abonnement, mais elles sont en train de s'éduquer en termes musicaux en accueillant des gens qui font les playlists, etc., et qui eux amènent du savoir musical. Mais chez Deezer, je donne souvent cet exemple là chez Deezer, l'ensemble de la musique classique et du jazz pour le monde, c'est une personne. Donc vous imaginez bien que n'importe quelle médiathèque est beaucoup plus puissante sur ces questions là donc les médiathèques sont une richesse absolument beaucoup plus profonde qu'une plateforme de streaming, faut en avoir conscience. Et il y a une autre mutation des plateformes de streaming qui est relativement récente, ou en tout cas elle est en cours et qui me paraît intéressant à vous exposer aussi, c'est qu'on est en train de rentrer dans le streaming très grand public. On a eu un streaming avec Deezer, Spotify, et là maintenant on a Apple et surtout Amazon, Google avec YouTube Music représente probablement encore le très très grand public. Et qui dit très grand public dit que ces entreprises, en fin de compte, elles ne feront pas votre travail. En gros, elles ne vont pas s'intéresser vraiment à la musique, à l'histoire de la musique. Elles ne vont pas mettre des moyens que l'ensemble des médiathèques de France, par exemple, peuvent avoir. Ou en tout cas, si elles le font, elles le feront à leur profit, c'est-à-dire en orientant la recommandation d'une certaine façon. Par exemple, les playlists, les playlists, c'est assez intéressant. Spotify a décidé, en tout cas le dit beaucoup, leur business c'est le titre, leur business c'est le morceau isolé, organisé dans des playlists, et l'album c'est nul, l'album c'est vieux, l'album il faut arrêter, c'est un truc du 20e siècle, etc. Et d'ailleurs on a vu dans l'ergonomie de la plateforme les albums être rétrogradés ces derniers temps, et alors qu'en fin de compte, quand on discute avec des plateformes, notamment Deezer, ils sont un petit peu plus ouverts que Spotify, eux ils disent non, en fait les albums, on a une vraie écoute d'albums, quoi. Il y a pas de alors oui, selon les âges, selon les moments de la journée, selon les typologies musicales, etc., ça va varier fortement, mais l'album a une vraie force aujourd'hui. Donc en fin de compte, Spotify fabrique une recommandation qui va dans son sens, parce que les playlists lui donnent un pouvoir éditorial et un pouvoir commercial vis-à-vis des maisons de disques, et aussi un pouvoir éditorial vis-à-vis de ses utilisateurs, ses abonnés, et c'est-à-dire de prendre les abonnés par la main et de les amener dans un chemin d'écoute qui mène à l'abonnement. Et parce que ça évite que les auditeurs s'éparpillent et aillent écouter un peu tout ce qu'ils veulent, ou voire soient un petit peu tétanisés, parce qu'effectivement l'offre infinie ou virtuellement infinie est assez effrayante. Et donc on se retrouve, je pense, aujourd'hui dans un moment, j'ai dit la même chose à Radio France il y a 15 jours, parce qu'ils se posent les mêmes questions que vous, en fin de compte, à quoi sert la musique à Radio France. Je pense que le service public, il est plus pertinent que jamais dans ce monde-là, parce que l'écoute, justement, a été captée par des grosses entreprises privées qui sont internationales, mais qui n'ont pas une vision de service public et qui n'ont pas, par exemple, je parlais au début, et après je vais terminer parce que je pense que je parle trop, des catalogues, effectivement. Par exemple, on va plus venir dans une médiathèque pour emprunter le dernier CD de Radiohead. Par contre, il y a tout un tas d'œuvres qui sont pas sur les plateformes de streaming, qui ne le seront pas, et surtout, il y en a qui ne le seront plus bientôt, un jour, parce que pour être présent sur une plateforme de streaming comme Spotify, Deezer, Apple, il faut avoir une maison de disques, un distributeur, il faut s'en occuper. Et les labels, on l'a vu à Bruxelles, des micro-labels, ça vit, ça meurt. Les distributeurs, si plus personne ne leur demande de mettre cette musique à disposition, et la musique n'est plus à disposition. Et c'est là où tout le travail d'achat, d'archivage, de mise à disposition de tout un tas d'œuvres actuelles également, anciennes bien entendu, mais actuelles, est à mon goût précieux, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des œuvres qui sont sur les plateformes, mais rien ne nous dit qu'elles y seront encore dans 5-10 ans. Et voilà, je pense que c'est extrêmement important de mener tout le travail que vous faites aujourd'hui. Merci.
Merci beaucoup. Nous avons pu écouter, disons, les contributions de chaque intervenant. Il nous reste une petite demi-heure réservée aux échanges, donc avec vous. Peut-être que dans cette perspective, est-ce qu'il y a déjà des questions qui se sont accumulées peut-être dans vos têtes au fur et à mesure des interventions? À défaut d'une première question, j'ai tenu aussi des interrogations en réserve. Donc je peux peut-être déjà lancer les échanges, c'est pas bon pour un échange, mais donc les échanges avec... deux sujets qui sont remontés ces dernières semaines, par exemple sur la liste discothécaire. Alors peut-être un premier sujet qui était proposé par Aurore Couturier, qui est peut-être présente d'ailleurs. Elle s'interrogeait sur la fonction de médiation justement musicale, et en se posant la question, est-ce que vous avez délégué totalement l'organisation par exemple d'un événement, d'une opération de médiation musicale, ou alors est-ce que vous l'avez porté vous-même? Donc je trouvais cette interrogation intéressante, parce qu'elle pointait aussi une des difficultés et des limites qu'on peut rencontrer en tant que médiateur musical. Et je ne sais pas, je vais peut-être me tourner vers Damien pour répondre à ça. Alors c'est peut-être pas la question qu'il aurait choisie dans la liste, mais...
Non, mais moi ça me paraît aujourd'hui difficilement concevable de développer la musique en bibliothèque sans médiation. Enfin déjà, c'est la base. Donc de fait, ça me paraît important que se développent des profils de médiateurs au sein des bibliothécaires musicaux, ce qui n'est pas forcément naturel, c'est des nouvelles compétences qui apparaissent, la médiation, parce que c'est se mettre en face d'un public, enfin la médiation entre... Il y a quand même le retour avec la médiation qui est différente de l'action culturelle ou l'animation, c'est quand même le retour vers les collections, donc je trouve qu'il y a un lien avec le cœur de métier, même si c'est un terme un peu compliqué aujourd'hui, mais juste simplement cette question de savoir si en fait s'il fallait externaliser tout, voilà.
Moi, en fait, c'est une question finalement de compétences professionnelles. Est-ce qu'il faut être en capacité d'assumer, de porter cette médiation soi-même, ou est-ce qu'on fait appel à un réseau de personnes qui ont
ces
compétences?
C'est toute la question de la formation, des compétences qui évoluent. Aujourd'hui, quand on accueille un groupe, est-ce qu'on est capable de le sonoriser? Est-ce qu'on a les formations adaptées pour ça? Enfin, c'est des sujets qu'on aborde régulièrement à la CIM, parce qu'on est tout le temps confronté à ces questions-là. Ça me fait penser, en fait, Romain Gaillard, donc du bureau de bibliothèque de Paris, est revenu de Amsterdam, où il a fait une visite des bibliothèques à Amsterdam. Je discutais avec lui il n'y a pas très longtemps. Il était étonné de voir à quel point les bibliothécaires étaient refermés sur leur premier métier et externalisaient tout. Dès qu'il y avait l'action culturelle, c'était des prestataires extérieurs. Dès qu'il y a l'action, dès que c'était autre chose que du catalogage et du prêt de documents, ils privatisaient en fait ce service en faisant appel à des prestataires extérieurs. Et à la fois, cette demande est une demande du public que les bibliothèques soient un lieu de vie culturelle et plus seulement de prêt de documents. C'est un fait. On sait bien que maintenant les gens viennent en bibliothèque plus seulement pour emprunter. Donc c'est la même chose, sauf que le métier n'évolue pas et ils externalisent ça. À titre personnel, je trouve ça triste, parce que ce que j'aime dans mon métier, c'est justement d'être confronté à ces questions-là, mais c'est aussi une question de renouvellement des compétences d'un métier qui évolue. On est à la preuve, Internet, tout ça.
Un autre niveau de réponse, oui.
Oui, parce que par rapport à notre expérience donc en Belgique et du côté du réseau des médiathèques, c'est que effectivement toutes ces questions de médiation, d'évolution des métiers en fait à la base, la plupart des gens qui travaillaient dans les réseaux des médiathèques sont donc des gens qui venaient mettre les disques dans les rayonnages, avaient des spécialisations un peu comme pour les bibliothèques, des spécialisations par rapport à certains styles de musique ou certains styles de cinéma, certains courants cinématographiques. Aujourd'hui, enfin depuis une dizaine d'années, chez nous ce que nous avons fait, mais c'est pas évident comme processus, on a évolué dans nos métiers en fait. On était obligés, contraints et forcés. Il faut savoir que chez nous, même si on avait une espèce de monopole dans la Fédération Wallonie-Bruxelles, le subside, et ça je pense que tout le monde est bien conscient de ça, les subsides, donc les budgets alloués à la culture et alloués au réseau des médiathèques a diminué progressivement, le prêt diminuant aussi, il a fallu tout de suite se positionner sur donc une évolution du métier pour tous les médiathécaires. Alors c'est peut-être plus complexe, plus difficile par rapport au fait que là je parle évidemment, j'imagine, des gens qui font partie du réseau des bibliothèques en France. Chez nous, le côté bibliothèque, c'est vraiment un diplôme bien précis avec des connaissances bien précises. Ils ont fait des études par rapport à donc leur métier de bibliothécaire. Chez nous, médiathécaire, les gens ont appris les choses un petit peu au fur et à mesure de leur carrière, n'avaient peut-être pas une formation autour de ces connaissances-là. Et donc, pour plein de gens dans l'institution, ça a été donc des mutations de métier qu'on essaye de faire pour pouvoir justement faire qu'on est à la fois médiateur, à la fois on collecte une collection et à la fois on tisse aussi des partenariats. L'idée, c'est que par exemple, si un concert se joue dans un point culture, c'est qu'à la fois ce soit par rapport à une thématique, par exemple migration, le travail, et aussi par rapport aux collections. Nous militons encore, là je prends 2 secondes ma casquette syndicale au sein de Point Culture, nous militons encore pour que notre base soit les collections, malgré tout ce qui a pu être annoncé ces derniers mois sur l'abandon des collections. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces collections-là soient notre appui, parce que c'est nos savoirs. Nous, ce qu'on connaît, c'est l'audiovisuel, c'est la musique et les jeux aussi que nous avons, nous, dans nos médiathèques. Et donc, c'est partir de ça pour pouvoir tisser des liens par rapport au milieu associatif, au milieu de la sphère culturelle dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et tout ça, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans ce processus, et ce n'est pas des choses évidentes. Vous avez des gens qui sont dans l'institution depuis 20, 30 ans, qui ont déjà plein de vécus différents, et à qui on dit tout d'un coup, demain, tu vas filmer un concert, une captation, toi, tu vas faire... Tu vas écrire un texte sur un artiste. C'était des choses qui, à la base, quand les gens étaient engagés chez nous, ce n'était pas quelque chose qui était prévu. Mais ils ont dû le faire, on a dû le faire pour contenter, il est vrai, le politique, mais aussi pour nous sauver, nous, de la situation d'être uniquement avec nos médias, pour lesquels les gens ne viennent de moins en moins, il faut le dire, et donc d'essayer d'amener autre chose. Mais toujours en lien, et ça c'est fondamental, ça moi, à titre personnel, et on est nombreux dans l'institution à le défendre, vraiment toujours en lien avec notre base, la base de nos connaissances, notre background culturel. Une question que je termine juste pour dire, une des questions fondamentales, je pense qu'elle a été posée dans la première conférence, c'est comment on arrive à promotionner ça? Comment on arrive à ce que les gens finalement reviennent vers nous par rapport à tout ce que je viens d'expliquer, donc cette idée de médiation et à la fois les médias physiques? Alors que vous êtes obligé de jouer dans cette jungle avec les GAFA et avec ces entreprises donc qui effectivement proposent tout comme ça, presque tout, enfin ils pensent tout proposer, mais c'est beaucoup plus facile pour eux, donc on doit jouer dans cette jungle là et comment on fait? Est-ce qu'on est obligé de jouer sur les mêmes plates-bandes qu'eux en termes promotionnels ou pas? Ça c'est des questions moi sur lesquelles je m'interroge encore aujourd'hui. Voilà.
Merci. Est-ce qu'il y a une question parmi les participants ce matin?
Bonjour, je m'appelle Thibaut Dorso, je suis fondateur d'une plateforme technologique de recommandation qui s'appelle Spideo. Je voulais rebondir sur le propos de Sofiane Fanon qui me semble très très important. Quand vous dites que les plateformes numériques ne viennent pas de la musique, ne sont pas du contenu et elles s'éduquent avec des experts de musique, il me semble qu'un des enjeux pour les acteurs non technologiques de la médiation, c'est en partie de réussir à faire le chemin inverse, c'est-à-dire de réussir à s'éduquer, notamment sur la question des données qui peuvent nourrir des expériences de médiation. Et j'insiste un tout petit peu sur ce point des données, parce que je pense que ça fait la passerelle avec les présentations de ce matin. Dans les logiques de recommandation, on peut être soit dans des logiques presque d'injonction, qui s'appuient sur des collectes très très statistiques d'usage, mais on peut aussi produire des données relativement au contenu qui permettent d'initier des dialogues et des conversations avec des usagers. Et à ce moment-là, on se parle de logiques de recommandation qui sont très différentes, qui n'ont pas vocation à être prédictives, mais à être dans une logique de découvrabilité. C'est un terme qui est important, qui a été cité tout à l'heure. Je pense que c'est le rôle aussi des bibliothèques de réussir à faire ce chemin inverse, c'est-à-dire à apprendre à utiliser les technologies pour produire les données qui ont du sens dans leur rôle de médiation.
Oui, peut-être que Vincent aura aussi quelque chose à dire là-dessus, parce que c'est beaucoup plus son créneau côté technique. C'est une réalité qui dépasse largement le monde de la musique. Effectivement, les acteurs doivent aussi aller vers la technologie. Enfin, voilà, moi je l'ai vécu dans la presse. On a eu beaucoup ce moment de tétanie, où du coup on a donné l'ensemble de ce qui touchait à Internet à trois personnes. Et puis on disait, oh là là, ça c'est Internet, on va pas s'en occuper. Aujourd'hui, on a heureusement bien dépassé ça. Et effectivement, il faut surtout pas laisser, quel que soit le secteur dans lequel on parle, il faut surtout pas laisser la technologie à ceux qui prétendent savoir la faire, parce qu'elle est super intéressante si on l'interroge et si on essaye d'en faire un outil qui nous sert. En tout cas, elle est bien entendu cruciale. Ensuite, comment dire, s'il y a bien quelque chose qui est demandé aussi par les auditeurs, et encore une fois, je rejoins divulguer ce qu'on racontait chez Radio France, ils sont dans la même problématique que vous, c'est-à-dire est-ce qu'on se paye un algorithme ou est-ce qu'on utilise nos algorithmes humains qu'on salarie déjà? En fait, la recommandation humaine aujourd'hui, justement, à l'encontre De ce monde extrêmement algorithmique et extrêmement froid et distant, et on ne sait pas trop pourquoi on nous reconseille, on nous recommande ça, elle a vraiment sa place. Et par contre, effectivement, ça ne veut pas dire que la technologie doit être bannie, mais moi je trouve que la part humaine de tout ça, en tout cas à l'échelle d'une médiathèque dans une ville, elle est super importante, et elle doit s'imbriquer dans cette recherche de technologie si on pense que ça peut être nécessaire sur le territoire.
Rebondir sur la question de comment fonctionne une plateforme de streaming musical aujourd'hui et sur leur stratégie. Leur stratégie, c'est bien d'avoir le plus grand nombre d'abonnés qui payent des abonnements, et ils ont des mesures de la satisfaction de leurs auditeurs. Et cette mesure, elle est faite en temps réel, et l'interface qu'on constate aujourd'hui est le résultat de tests auprès de ses auditeurs et de ce qu'on appelle les tests AB, où en fait en permanence vous avez plein de versions différentes du site pour essayer d'identifier les meilleurs types d'interfaces qui vont satisfaire le public. Donc ça c'est et aujourd'hui en fait ça a été un processus itératif. Et la forme des services qu'on constate aujourd'hui sont le résultat de ce processus qui n'est pas volontaire. On va dire, il n'y a pas une idée préconçue de la part des concepteurs de ces services de ce que doit être le service. C'est une évolution incrémentale. Et alors que le rôle, je pense, de vrai prescripteur, c'est d'avoir une vraie idée sur c'est quoi l'expérience qu'on propose à notre auditeur ou spectateur, usager, et avec une idée très claire de donc, qu'est-ce que c'est l'expérience, c'est quoi les données qu'on va utiliser pour produire cette expérience, quitte à les produire soi-même par des êtres humains qui, eux, auront une meilleure capacité à les produire que des algorithmes ou de l'extraction automatique. Donc je pense que là il y a un champ encore immense. Je crois que tout le monde est d'accord depuis le début de cette discussion, c'est que il ne faut pas se battre avec Spotify sur la délivraison d'un service qui va essayer de faire la même chose. C'est évident qu'il faut être complémentaire, il faut travailler sur les ressources dont disposent les médiathèques et qui sont très spécifiques et qui peuvent permettre de constituer, d'offrir en fait des expériences qui sont très très différentes. Je reviens sur cette question de la curiosité des auditeurs. Elle est quand même en général assez faible. Dans notre moteur de recommandation, la première chose qu'on mesure, c'est la curiosité d'un auditeur. Et effectivement, si on mesure qu'elle est faible, on va le contraindre à son univers favori, et en particulier aussi les titres les populaires. Et faire découvrir de la musique qui sort de ce champ-là, c'est très difficile. Et il y a mille manières de le faire. Et les Spotify et Deezer sont mal équipés, enfin, n'ont pas les ressources pour le faire. Donc, voilà.
Merci. Une autre question dans la salle ?
Oui, bonjour. Je parle de la médiathèque des Ulis, en fait, une ville de 26 000 habitants. Je suis Alix, et j'entends bien tout ça. Je pense que si on regarde bien la jeune fille qui joue devant nous, elle joue de la musique. On le voit bien. Il y a une petite contradiction parce qu'on parle de recommandation et médiation musicale à l'heure du numérique, et on oublie peut-être que la musique, ça se joue, ça se vit. Donc, on a intérêt peut-être, nous, en tant que médiathécaire, je ne sais pas, on appellera ça comme on veut. On a intérêt, si on ne veut pas mourir, à se positionner peut-être sur le domaine de la pratique musicale. C'est un axe important, je pense, qu'il nous faut travailler. Donc nous, on s'est équipé de quelques instruments pour cela. Hein, il n'y a pas forcément besoin d'une grande formation musicale ou d'être musicien. On peut mettre simplement à disposition des instruments. C'est mieux si on a une formation musicale, effectivement. Mais je pense qu'il faut que les médiathèques travaillent plus cet axe-là, pour continuer à vivre, parce qu'on n'est plus. On a essayé de faire des sélections musicales. On a plusieurs années, nous, à la médiathèque des Ulis, on a fait des sélections sur Pinterest, des choses comme ça, Je pense que d'autres le font mieux que nous, peut-être, ou différemment. Après, on apprécie ou pas la dimension commerciale de la chose, mais il faut peut-être changer, il est peut-être temps de changer son fusil d'épaule. Il y a cet axe, effectivement, que je citais de la pratique musicale, mais il y a l'axe aussi de la programmation musicale, et on a intérêt, je pense, à bien se positionner là-dessus. Donc il faut qu'on demande des budgets, il faut qu'on fasse des concerts, il faut qu'on, quitte à mettre en parallèle la collection, faire des mises en écho avec tout ça, ça peut être intéressant, de ne pas oublier le public qui fréquente aussi les médiathèques pour les collections, il y en a encore. Hein, je pense que moi j'ai grandi, j'ai 40 ans, j'ai grandi avec le 10, donc je suis encore content de moi-même de mettre un petit CD quand je rentre chez moi le soir, et même toute la journée, puisque j'en mets dans la médiathèque, c'est important aussi, c'est une dimension importante. Mais je pense qu'on ne pourra pas lutter contre ces grands trusts, voilà, qui font ça mieux que nous. Et les jeunes, la preuve, c'est que j'ai essayé de passer des choses à travers des sélections, ils ne fréquentaient pas, ça prenait pas en fait, à travers nos sélections. Voilà, donc on les a, les jeunes, et ce public un petit peu nouveau, on les a grâce à la pratique musicale et aux concerts. Et après, on les a peut-être, en leur proposant des disques, on peut les avoir en leur proposant des CD. Hein. Mais au départ, l'entrée, enfin la vitrine chez nous, c'est plus forcément le disque, hein, pour ces générations-là en tout cas. Voilà, merci.
On est tout à fait merci. D'accord. Là, c'est vrai que comme le sujet, c'était la recommandation, la médiation, on a beaucoup insisté sur ça, mais on est tout à fait d'accord que plus généralement, la réflexion de fond, c'est de se dire que la musique en bibliothèque ne peut plus se résumer qu'auprès de CD et qu'il doit prendre plein de formes. Et encourager la pratique amateur, encourager sur le prêt d'instruments, quelque chose qui se développe dans plusieurs villes, à Paris, on commence, le prêt de partitions, de méthodes, tous ces sujets-là sont évidemment extrêmement importants et en effet organiser des concerts, organiser la façon de découvrir des musiques et de permettre à des musiciens de se produire, tout ça fait partie de la place de la musique en bibliothèque. C'est le truc de fond, je pense, c'est ça, c'est que de toute façon il ne faut plus résumer la musique en bibliothèque comme l'unique prêt de CD. C'est vrai que comme on parle de médiation, de recommandation, on a un peu occulté ce sujet-là. Nous, à la médiathèque musicale de Paris, il y a plus de gens qui écoutent, qui empruntent, ou au moins autant de gens qui empruntent des partitions que de CD. Et on prend évidemment toute mesure de ce signal fort en termes de purement prêt, là.
Attention à un piège quand même, parce que nous en Belgique on le sent très fort. Effectivement, là tout à l'heure je vous dis qu'on diversifie nos métiers, qu'on change nos métiers, mais si on se substitue à des opérateurs qui existent déjà, on va dans le mur en fait, parce qu'à un moment le pouvoir subsidiant il va plus faire la différence en fait. Alors je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas faire ce que vous dites, c'est-à-dire et faire ce que Damien dit, c'est-à-dire intégrer des concerts, une approche par rapport à un instrument ou que sais-je, mais n'oublions pas quelle est, enfin je ne vais pas me faire de la redite, mais n'oublions pas d'où on vient, ce qu'on est, quels sont nos savoirs. Alors ce n'est pas pour autant qu'on sera sauvé par nos savoirs, mais il est très important de partir de là plutôt que de se substituer à un travail qui est fait déjà par d'autres. C'est des choses qu'on nous a dit déjà dans la sphère politique chez nous, c'est attention, vous faites ce que les centres culturels font, vous faites ce que d'autres opérateurs en fédération font déjà, on ne vous demande pas ça, on vous demande de travailler sur le cinéma, la musique, les jeux, et effectivement de diversifier votre offre, mais il y a un glissement qui peut être dangereux.
Effectivement, donc c'est des situations que j'ai pu connaître à Strasbourg aussi en termes de recadrage, disons, de politique culturelle, hein, donc par la direction de la culture. Mais je pense que ce qui était intéressant dans l'interrogation et le partage d'expérience, c'est que justement là, de préciser le contexte dans lequel on formule les choses. Et je pense que là, en l'occurrence, peut-être que la médiathèque a un rôle tout à fait particulier à jouer quand il s'agit d'une commune, peut-être de 10 000 à 30 000 habitants. Les questions se poseront différemment que quand on sera sur de l'intercommunalité ou sur des grandes villes. Donc,
Et je voulais peut-être juste ajouter, effectivement, quand on fait des concerts, on ne se substitue pas à des salles de concert, parce que c'est un public qui ne va pas forcément dans ces lieux-là. Donc, par exemple, à Lyon, on fait des showcases qui ont lieu dans un espace qui n'est pas du tout identifié comme un espace musical. On est dans le hall de la bibliothèque, c'est un concert impromptu qui dure 30 minutes. Et l'intérêt de ce genre d'action, justement, c'est que ça va toucher des publics qui ne sont peut-être pas amenés à se rencontrer habituellement. Donc des personnes qui ne vont pas forcément au concert, des personnes qui utilisent l'espace musique, d'autres qui utilisent d'autres espaces, qui n'étaient pas forcément là pour le concert, et puis le public habituel qui vient peut-être pour écouter ce groupe. Donc moi, c'est justement sur ce type d'action, je trouve que c'est intéressant d'apporter quelque chose qui ne va pas être proposé ailleurs. Enfin, c'est ce qu'on disait sur le numérique, le streaming, etc. Mais sur nos actions aussi, c'est le cas.
Alors j'aimerais encore une question dans la salle, ou peut-être même deux ou trois, mais peut-être on n'ira pas au-delà de trois, je pense.
Ouais, Anne Tricard, donc je travaille à la bibliothèque de Limoges, municipale de Limoges, et je voulais rebondir, c'est une question à laquelle j'ai réfléchi tout à l'heure, mais justement sur les politiques culturelles, pour dire qu'on a quand même beaucoup de mal, enfin la recommandation auprès du public, mais il y a aussi la recommandation auprès de nos élus, nos bailleurs de fonds, qui sont quand même souvent de l'arrière-garde. Enfin, le nouveau monde, on ne le voit pas toujours, et notamment au niveau du numérique et des enjeux des bibliothèques et du numérique. Et je trouve que c'est très difficile, en fait, je trouve, de leur faire prendre la mesure des enjeux qui peuvent se jouer pour notre futur, enfin pour notre métier. Et notamment en termes de recommandations, et c'est très difficile, parfois, pas partout j'espère, mais néanmoins, de se voir attribuer les moyens, les postes, etc., enfin, dont tu parlais, Damien, pour faire ce travail dont on a parlé tout au long de cette matinée. Et ce travail-là, c'est quand même des gens, des personnes, des postes et des budgets. Alors tant mieux si il y a des villes où ça se passe, mais c'est pas partout. Et voilà, je trouve quand même qu'on est que parfois on a plus d'ambition que nos élus qui comptent encore les prêts, les passages aux portiques et les trucs et les machins, et pas le reste. Bon, il faut le compter probablement et certainement, mais qui comptent pas forcément le reste, ou qui ont une mauvaise vision, évaluation en fait des enjeux du numérique et des bibliothèques.
Alors, je ne sais pas si c'est une question orientée ou dirigée vers quelqu'un de la table ronde, mais je me permets de répondre peut-être du point de vue aussi de responsable d'établissement à Strasbourg. C'est vrai que c'est un point essentiel d'avoir ce dialogue avec les élus. Quand on n'a pas de fonds patrimoniaux, donc à gérer, de fonds musicaux patrimoniaux, par exemple, défendre un projet de médiation numérique à rayonnement national, parfois, c'est pas facile à faire comprendre et à mobiliser des ressources individuelles en disant vous allez contribuer à la connaissance, à l'appropriation des connaissances, à la curiosité, à la diversité musicale. C'est vrai que les élus, très souvent, ont une logique beaucoup plus territoriale, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent à un bassin territorial, à une ville, à un territoire élargi, mais ils ne vont pas mobiliser nécessairement de l'énergie et du temps pour un travail collectif qui soit celui de l'échelle nationale ou francophone. Voilà. Et c'est un vrai sujet. Par contre, je pense qu'en même temps, un élu peut comprendre que de la médiation culturelle, sans inclure la musique, sans inclure, on va dire, à un moment ou un autre, des temps de médiation musicale, même quand ils veulent freiner, parfois ils y viennent d'eux-mêmes, presque, je dirais, quoi. C'est qu'ils sont confrontés aussi à ces attentes de la part de leur public, de leur population. Donc c'est vrai que c'est beaucoup sur ce terrain-là, donc malgré tout, qu'il faut essayer de progresser, c'est-à-dire que la musique reste une pratique importante, et quel que soit, le niveau de rayonnement que l'on choisisse, elle a sa place dans une collectivité, dans un territoire.
Oui, alors Thierry, je parle pour la discothèque Hergé. Je voulais parler d'autre chose, puis je dois rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, pour localiser une diffusion sur Internet, il faut payer. Voilà. Et ça, la question est posée, elle ne reçoit pas de réponse pour l'instant de la part des instances.
Alors, localiser une diffusion sur Internet,
on demande de payer, par exemple, si vous voulez diffuser une playlist en passant par Facebook, par exemple, ou si vous voulez toucher un public de proximité, il faut payer, il faut donner de l'argent à Facebook pour qu'il localise les données que vous voulez diffuser. Donc, je parlais de ça pour rebondir sur ce que vous disiez au niveau français ou international de ce qu'on peut publier. Mais ce qui m'intéressait, c'était d'abord de... Je pense qu'avec Sofian, ce qu'a raconté Sofian, son histoire, je pense qu'on a vécu la même avec l'arrivée à la fin des années 90 des différentes plateformes de streaming, en passant par les Overnet, Mininova... jusqu'à la Dopi et tout ça, et on a essayé de voir comment pouvait se diffuser la musique en ligne. Moi, au début des années 2000, quand j'ai découvert ça, et avec la DSL, je me suis dit, oh, mais tiens, on va pouvoir publier plein de choses, le streaming existait déjà, il n'y avait pas les plateformes, mais on pouvait aller chercher des clubs à la Nouvelle-Orléans qui diffusaient des concerts en ligne. J'ai essayé de faire un truc sur ça, dans l'indifférence générale, hein, finalement. Et j'ai quitté l'univers des discothèques et bibliothèques pendant 10 ans. J'ai travaillé avec Google pour promouvoir des sites anglais. En fait, je faisais de l'optimisation auprès des moteurs de recherche. Et je suis revenu et je me suis dit, allez, ça a changé, maintenant on va pouvoir utiliser ces nouvelles plateformes. Je voulais revenir sur les algorithmes. Je ne sais pas si tu te souviens, Sofian, il y a une 10-15 d'années, on avait des algorithmes qui nous permettaient de fouiller les 30 000 morceaux qu'on avait sur nos disques durs et qui le faisaient, mais avec une approche musicale. C'est-à-dire, on partait d'un morceau qu'on avait sur notre disque dur et on pouvait... le serveur analysait le tempo, les instruments utilisés, machin comme ça, et on se retrouvait avec des playlists tout à fait écoutables et qui fonçaient dans le mime. On ne connaît plus du tout ça aujourd'hui avec les algorithmes des... Si. avec les algorithmes des plateformes de streaming, parce que je pense qu'elles font plus sur des données sociales que sur des données musicales, profondément musicales. Si tu cherches sur une plateforme musicale un morceau de musique classique, par exemple de Bach, il va te passer du Berlioz. Ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, c'est...
Alors, cette question, oui, je peux peut-être intervenir. Ouais. Ouais. Les algorithmes d'indexation automatique, ils ont énormément... été amélioré depuis une dizaine d'années, en particulier parce qu'on utilise des algorithmes de deep learning pour l'indexation, hein, je parle. Hein. Et donc c'est beaucoup plus précis. Jusqu'à, il y a 10 ans, en fait, même détecter un genre, c'était à partir d'un fichier audio, c'était très difficile. Aujourd'hui, c'est un peu meilleur, c'est pas encore très bon. Après, les plateformes, aujourd'hui, utilisent une grande variété d'outils. Effectivement, ils décrivent la musique, mais pas seulement. Il y a effectivement les comportements des utilisateurs qui sont utilisés, et c'est très utile aussi. Je vais donner un exemple. En fait, si vous partez de, mettons, un grand soliste un violoniste très connu et très classique, si vous récupérez les métadonnées du web. Ou même vous faites de l'indexation automatique avec l'audio, vous risquez d'aller retrouver André Rieu assez rapidement parce qu'il y a classique et évidemment c'est une hérésie pour quelqu'un qui même ne connaît pas forcément beaucoup la musique. Si vous utilisez en plus les données comportementales et de co-occurrence de préférence, en fait vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout les mêmes communautés qui écoutent André Rieu et ce soliste. Donc effectivement il y a probablement des contextes d'utilisation de ces algos qui vont faire que c'est pas utile et c'est pas le bon contexte. Et probablement ce que vous avez constaté, c'est ça. Mais globalement, ils sont bien meilleurs qu'il y a 10 ans.
Enfin, je ne sais pas s'ils sont vraiment comparables, mais ce que je veux dire, il y a les algorithmes dont je parlais il y a 10 ou 15 ans, ces algorithmes qui écoutaient vos morceaux, les morceaux que vous aviez sur votre disque dur. Donc c'est un fonctionnement différent, hein, c'est une analyse différente.
Je suis
Oui. Alors, oui, oui, mais je serais
ravi d'en discuter.
Oui, ok. On va, donc, alors, je voulais, pour conclure, je voulais juste dire que on avait effectivement notre place sur les plateformes. Nous, depuis 4 ans, on publie des playlists, à peu près 180. On voit que les résultats d'écoute sont bons et sont assez intéressants parce que sur 4 années, pour vous donner 3 exemples de 3 playlists,
alors,
qui
je suis désolé,
très écoutées.
On ne va pas pouvoir aller au bout des 3 exemples, je suis désolé, puisqu'on est tenu.
Ça prend 5 secondes, d'accord. Ça peut être intéressant.
Okay. Oui.
On a une réédition de John Cale Music for a New Society. On a l'avant-garde musicale russe des années 20 et on a un groupe obscur qui n'est pas signé sur aucune plateforme mais qui apparaît quand même sur YouTube qui était les Bijoux de la Princesse, un disque sur l'absinthe qui n'existe même plus en format quelconque. Donc je pense qu'il y a de la place à prendre. Voilà, excusez-moi d'avoir été aussi long.
Merci beaucoup, mais comme on me fait des signes effectivement pour indiquer que le temps imparti à la table ronde a été dépassé, je souhaite juste d'abord vous remercier, vous, pour votre participation, votre attention, et bien sûr les participants à la table ronde. Il y aura une petite incise aussi de Nicolas pour l'enchaînement. Peut-être... deux éléments. Donc, c'est vrai qu'il y a des enjeux pour les médiathèques qui restent les enjeux de la diversité, justement de l'attention que l'on peut porter à la musique et donc peut-être du développement du goût musical. Une précision peut-être, puisqu'on en a parlé, donc il existe des plateformes qui assurent aussi la diffusion de musique et musiciens, donc qui ne sont absolument pas signés par des labels. Donc si demain vous composez un morceau de musique, vous avez 2-3 plateformes à votre disposition qui vous permettront d'être diffusé et d'exister sur Deezer. Alors exister bien sûr dans la limite des écoutes que vous allez y développer et y susciter, mais en tout cas vous apparaîtrez en résultat de recherche sur ces plateformes. Donc j'en cite une, c'est iMusician, donc qui assure cette diffusion dans des conditions économiques relativement modestes. Donc c'est intéressant. Donc ça permet aussi cette diversité de production, y compris des scènes locales et régionales proches des médiathèques souvent. Un grand merci en tout cas pour votre participation à cette table ronde et puis peut-être
une question à Vincent, pardon. Pour revenir, une question à Vincent Castagnier qui puisse nous expliquer ce que signifie le concept de découvrabilité, un concept qu'on utilise beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, du côté du Québec notamment. Voilà.
Oui, la découvrabilité, alors, c'est le fait de pouvoir accéder à un contenu et donc que le contenu soit... fasse partie d'un catalogue qui est fourni par une plateforme de service, qui soit suffisamment documenté en termes de métadonnées pour qu'il puisse arriver dans un résultat soit d'une recherche, soit d'une recommandation ou fasse partie d'une playlist, enfin d'une recommandation de la part d'un éditeur. Donc, donc pour être découvrable, il faut au minimum avoir d'abord fourni ce contenu sur la plateforme, associer des métadonnées et avoir fait un minimum d'efforts aussi de promotion pour faire partie des playlists ou des systèmes de recommandations. Voilà.
Oui, c'est vrai que c'est un point qu'on n'avait pas approfondi alors qu'on souhaitait le faire.
Et donc il y a un indice de découvrabilité qui a été conçu par ces personnes du Québec qui travaillent là-dessus.
Alors je rappelle que en fait on est encore disponible, on sera aussi présent en partie au moins je crois cet après-midi pour répondre à des questions de manière directe, donc n'hésitez pas à venir à notre rencontre. Écoutez, je vous remercie à nouveau ainsi que tous les participants à la table ronde et puis je vous souhaite un très bon appétit.
Simplement encore 3 choses.